VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiache avec vous, il est 19h30 en temps universel, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, en Éthiopie, l'état d'urgence décrété au lendemain de la démission surprise du Premier ministre. Premier discours au Parlement du nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Au Sénégal, 7 ans de prison requis contre Khalifa Sall, maire de Dakar. Et 6 Congolais au moins tués lors de combats avec des militaires rwandais dans l'est de la RDC. Et puis, ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. Dans 10 minutes, c'est l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le gouvernement éthiopien a décrété ce vendredi l'état d'urgence avec effet immédiat au lendemain de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn. On ignorait pour combien de temps l'état d'urgence était annoncé. Cette annonce intervient au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam qui doit toutefois rester en place jusqu'à la désignation de son successeur à une date pour le moment inconnue. Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa présente les grandes lignes de son plan d'action pour le pays dans un discours au Parlement au lendemain de sa prise de fonction. Retrouvons notre correspondante en Afrique du Sud, Patricia Huon. Bonsoir Patricia.
Cyril Ramaphosa vient effectivement de terminer son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Dans celui-ci, il a exprimé sa volonté de construire une société meilleure pour tous les Sud-Africains. Il a rappelé sa promesse de s'attaquer à la corruption, assurant que ceux qui avaient commis des crimes à ce niveau seraient punis et qu'une commission d'enquête sur la capture de l'État commencerait bientôt son travail. Il a aussi longuement évoqué la nécessité de travailler à réduire la pauvreté et les inégalités. Il tend la main aux investisseurs étrangers. Il a mis sur la table aussi des mesures concrètes pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Mais il a cependant également donné des garanties sur l'éducation gratuite promise par le gouvernement de Jacob Zuma, le maintien des aides sociales ou encore sur la transformation économique radicale, soit une réduction des inégalités économiques et raciales. Il a aussi promis d'accélérer la redistribution des terres sans compensation si nécessaire. Après ses promesses, Cyril Ramaphosa va maintenant devoir prouver qu'il est aussi en homme d'action.
Merci Patricia Huon qui était avec nous en direct en Afrique du Sud. Au Zimbabwe, après la mort mercredi de Morgan Tsvangirai, les vice-présidents du MDC, son parti, se déchirent. Elias Mudzuri se prévaut d'avoir été nommé chef intérimaire du parti par M. Tsvangirai quelques jours avant sa mort, pendant que Nelson Kamisa, qui a convoqué hier jeudi une réunion de sa direction au siège de son parti à Harare pour officialiser sa prise de contrôle pour une période de 12 mois. Ces rivalités favorisent le nouveau président Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF aux élections générales prévues d'ici juillet. L'armée congolaise affirme avoir perdu 6 éléments lors d'accrochages avec des soldats rwandais en territoire congolais. Des combats qui se sont déroulés dans l'est du pays lors d'une incursion de soldats rwandais, selon un général congolais. Depuis Goma, retrouvons Charlie Kasereka.
L'armée congolaise a enregistré 6 morts dans ses rangs et 4 blessés, dont 2 graves, d'après le général Bruno Madimvu, commandant de l'opération Sokola 2, chargé de la traque des rebelles hutus rwandais des FDLR. Alors que nous avions observé l'ordre de cesser le feu venu de Kinshasa, à la demande des autorités militaires de Kigali, les soldats rwandais ont continué de tirer, faisant 6 victimes dans nos rangs, a expliqué le général Mandevou. Mercredi, les forces armées de la RDC avaient fait état de violents combats près de la frontière avec le Rwanda. L'armée congolaise a accusé des troupes régulières rwandaises d'avoir occupé des positions à l'intérieur des frontières congolaises. L'Est congolais est déchiré par des conflits depuis plus de 20 ans. Des dizaines de groupes armés, soutenus parfois par des pays voisins, se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles.
Et c'était la voix, bien évidemment, de John Lyndon et non de Charlie Kasereka. L'ancien chef de guerre congolais, Germain Katanga, a dénoncé aujourd'hui la lenteur avec laquelle se déroulait son procès devant la haute cour militaire congolaise. La Cour pénale internationale l'avait condamné en 2014 à 12 ans de prison. Transféré à Kinshasa en décembre 2015, M. Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Les autorités congolaises avaient indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été ouvertes contre lui. L'opposition burundaise dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Selon le CNARED, une plateforme regroupant l'opposition en exil dans la ville de Bubanza dans le nord-ouest, tous les passants étaient obligés de s'arrêter à des barrages et personne ne pouvait passer sans montrer son récépissé d'enrôlement. L'opposition estime qu'il y a peu d'engouement de la population pour ce référendum. Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées par un gang armé dans un village de l'état de Zamfara, selon la police et des villageois. Nathalie Barge.
La police a évoqué un bilan de 18 morts dans l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi à Birani. Mais deux habitants affirment que 41 corps ont été récupérés avant d'être enterrés. D'après leurs témoignages, des bandits armés en moto ont attaqué un camion transportant des habitants. Ils l'ont arrêté, ont ouvert le feu, tuant tout le monde avant de se rendre au marché où ils ont également tiré sur la foule. Un habitant a dit que les milices de défense avaient ensuite lancé des représailles. Mais selon la police de Zamfara, des chasseurs de Birani avaient tenté d'intercepter la veille un voleur présumé de bétail en brousse et les bandits leur ont alors tendu une embuscade. Les affrontements ont fait des morts des deux côtés, rapporte la police, affirmant que les forces de l'ordre avaient découvert 18 cadavres.
Nathalie Barge. Au Sénégal, 7 ans de prison ont été requis contre Khalifa Sall. Le maire de Dakar était jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de sa mairie. Le premier déplacement de George Weah en Europe se fera en France. Le nouveau président du Libéria visitera l'Hexagone du 20 au 23 février et sera reçu à déjeuner par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a annoncé la présidence française hier jeudi soir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La conférence sur la sécurité à Munich, grande réunion annuelle rassemblant les responsables diplomatiques et militaires, a ouvert ses portes. L'Europe se retrouve face à l'administration américaine suite aux inquiétudes exprimées par Washington sur le projet de défense européen, Raissa Girondin.
Une vingtaine de chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et de la Défense sont dans la capitale bavaroise pour ce rendez-vous annuel sur la sécurité. Une forte délégation américaine s'inquiète du projet de défense européen. Le tandem franco-allemand, les ministres de la Défense persistent et signent. L'Europe doit se doter d'une autonomie stratégique pour se défendre tout en restant fidèle à l'OTAN. L'Union européenne a lancé en décembre une coopération militaire inédite pour développer des équipements et des armements. Le président français Emmanuel Macron appelle par ailleurs à la création d'une force commune d'intervention européenne capable d'agir hors des structures de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé que la relance de l'Europe de la défense ne devait pas empiéter sur les prérogatives de l'Alliance. Nous saluons ces efforts du moment qu'ils ne concurrencent pas, mais complètent les efforts de l'OTAN, a-t-il souligné.
Actualité internationale toujours, dans un contexte politiquement délicat pour lui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra à la Maison-Blanche le 5 mars prochain. Le déplacement interviendra alors que se multiplient les appels à la démission de M. Netanyahou en Israël, surtout depuis que la police a recommandé son inculpation pour corruption. M. Netanyahou a trouvé chez le président républicain Donald Trump un fervent soutien, Washington ayant reconnu en décembre Jérusalem comme capitale d'Israël, déclenchant par là la colère des Palestiniens et la réprobation de la communauté internationale. En Europe, la justice belge a infligé aujourd'hui un revers à Facebook en sommant le réseau social de cesser de pister les internautes en Belgique sans leur consentement et de détruire toutes les données personnelles obtenues illégalement, sous peine d'une astreinte de 250 000 euros par jour, astreinte pouvant atteindre 100 millions d'euros. Le géant d'Internet a immédiatement annoncé son intention de faire appel. La justice française a de nouveau classé sans suite l'enquête préliminaire sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, 35 ans, qui maintient pour sa part sa plainte en dénonciation calomnieuse. Cette enquête, classée sans suite en juillet, avait été rouverte fin janvier après l'envoi d'un nouveau courrier de la femme qui accuse M. Darmanin de l'avoir violée en 2009, alors même qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et place maintenant à la Minute Écho, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Jean-Roger Bion.
Le Parlement tunisien a validé jeudi la nomination d'un nouveau gouverneur pour la Banque centrale, Marouane El Abassi, ex-économiste de la Banque mondiale, après la démission la veille de son prédécesseur en raison d'une polémique. Mes principales inquiétudes sont l'inflation, le déficit de la balance des paiements et l'économie parallèle, a déclaré devant le Parlement M. Abassi, qui était depuis 2010 le représentant de la Banque mondiale en Libye. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a abandonné de nombreux impôts précédemment inclus dans l'annexe fiscale 2018 suite à un consensus avec le secteur privé. Les dispositions abrogées concernent la taxe sur les transferts d'argent, l'aménagement sur l'impôt synthétique et le relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire, selon le communiqué du dernier Conseil des ministres du gouvernement ivoirien. Ces taxes faisaient partie des principales pierres d'achoppement entre l'État et le secteur privé. Et le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, va recevoir un prêt de 700 millions de dollars de la part du Japon. Les fonds qui seront décaissés dans le cadre d'un accord entre l'Agence japonaise pour la coopération internationale et le FAD devraient permettre à l'institution panafricaine de soutenir les plans de développement des pays les moins avancés et les plus pauvres d'Afrique.
Au sport à présent avec vous, Eric Manirakiza. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
Eric, on commence avec un regard sur le mercato d'hiver. Les indemnités du Big Five ont flambé de plus de 70%.
Eh oui Anastasie, plus de 979 millions de dollars investis dans les transferts. Les clubs anglais, espagnols, allemands, italiens, français, le Big Five européen comme on les nomme, ont augmenté de plus de 70%. Il y a eu 3317 transferts internationaux en janvier 2018. C'est l'Angleterre qui a le plus dépensé à hauteur de près de 483 millions de dollars. Pas mal.
Le détenteur des droits télé du foot espagnol sous le contrôle chinois.
Le groupe chinois Orient Ontai Capital a pris le contrôle du groupe audiovisuel Imarina Media Pro pour 1 milliard d'euros, soit plus de 53%. En plus des droits pour les matchs en Espagne de la Ligue des Champions et des droits télévisés en Italie, l'accord lui ouvre aussi l'accès au marché chinois.
Alors, entre José Mourinho et Paul Pogba, l'atmosphère est au beau fixe?
L'entraîneur de Manchester United, Anastasi, qualifie de mensonge les spéculations sur une éventuelle bisbille avec son milieu de terrain. C'est un grand mensonge de dire que nous ne sommes pas d'accord sur son poste ou son implication dans l'équipe, a déclaré Mourinho. Manchester United doit affronter Huddersfield en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre demain.
Football toujours, l'attaquant de Manchester City et Jesus de retour à l'entraînement.
Le buteur brésilien n'a pas encore joué en 2018. Son entraîneur Pep Guardiola a annoncé son retour à l'entraînement vendredi. Il s'était blessé le 31 décembre contre Crystal Palace.
En Italie, la Juventus veut gagner contre Torino pour oublier Tottenham.
Tout à fait, Anastasie. L'objectif numéro 1 reste le 7e Scudetto, malgré le match nul amer concédé face à Tottenham mardi soir. C'était en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, s'est déjà tourné vers la rencontre de dimanche face au Torino. Les Bianconeri peuvent compter sur le retour de Dybala, absent depuis plus d'un mois.
L'ex-président italien de Watford, inculpé pour blanchiment en Espagne.
Rafael Riva est aussi cité à comparaître dans cette affaire de fraude fiscale présumée qui implique le club de Grenade. Monsieur Riva a quitté fin 2016 la présidence de Watford à la suite de l'ouverture d'une enquête sur de présumés faux documents bancaires.
Et on termine, Eric, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota a battu la Lakers 119-111. Milwaukee a perdu face à Denver 123-134. Dans la conférence Est, Toronto, Boston et Cleveland sont en tête du classement. Dans l'Ouest, Houston, Golden State et San Antonio se succèdent en haut du classement. Et c'est tout pour les sports, Anastasie.
Passion Sport, c'était Eric Maniarakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiache avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. Au Niger, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'assistance cette année selon l'ONU. Pour faire face à cette situation, les partenaires humanitaires du Niger ont besoin de 338 millions de dollars. Un plan de financement a été lancé à cet effet hier, jeudi. Abdulrazak Idrissa est notre correspondant à Niamey.
La situation humanitaire du Niger est marquée par la combinaison de vulnérabilités chroniques et aiguës, se caractérisant par une insécurité alimentaire dans des zones telles que Diffa et Tillabéri, une malnutrition qui touche plus d'un million d'enfants, des déplacements prolongés des populations, particulièrement à Diffa du fait de Boko Haram, mais aussi par des épidémies saisonnières et des inondations récurrentes. Les personnes touchées par ces vulnérabilités sont estimées à 2 300 000, soit près de 400 000 personnes de plus que l'année précédente. Binta Jubo, coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger.
Si vous voyez qu'il y a une augmentation, c'est que la situation a évolué. On l'a dit, il y a la situation sécuritaire qui impacte les populations et que cette situation, on ne l'avait pas l'année dernière. Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina, c'est un nouveau front qui s'est développé. Donc naturellement, il y aura plus de personnes affectées que l'année dernière. Ce plan que nous avons lancé ce matin va permettre à faire face à l'insécurité alimentaire à Diffa et dans la zone de Diffa et de Tillabéri et également prendre en charge des enfants qui souffrent de malnutrition modérée et aiguë.
C'est la septième année que ce type de plan est élaboré par les acteurs humanitaires du Niger pour faire face à l'urgence. Celui de 2017 a été financé à hauteur de 80%. Les autorités du pays espèrent que ce nouvel appel au financement connaissent le même succès. Yabila Maman, responsable de la cellule crise alimentaire au cabinet du Premier ministre.
Le plan qui a été déroulé en 2017, le niveau de réalisation a été à hauteur de 79%. C'est un bon niveau de réalisation. Vous avez vu aussi bien son Excellence Monsieur le Premier ministre que Madame la coordinatrice humanitaire a lancé un appel à tous les acteurs, donc y compris les partenaires techniques et financiers, pour qu'on se mobilise autour des objectifs de ce plan-là pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Répondant à certaines critiques qui leur reprochent un accent trop mis sur l'humanitaire aux dépens du développement, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger a affirmé que le sommet humanitaire mondial de 2016 a effectivement recommandé la recherche de complémentarité entre l'humanitaire et le développement, ce à quoi il s'attelle au Niger, dans la région de Diffa notamment, qui a un grand potentiel pour cela. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap sur le Burundi, où doit se tenir en mai prochain un référendum pour réformer la constitution du pays qui devra permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer deux autres mandats à partir de 2020. Son troisième mandat avait déjà provoqué une crise dans le pays et Antonio Guterres, patron de l'ONU, a critiqué ce référendum non consensuel. Une bonne partie de l'opposition burundaise est en exil. Yakuba Ouedraogo a joint à Bruxelles Frédéric Bamvougi, Gnoumvira, président du Frodebou. Écoutons-le.
le président actuel a trompé le public en disant « c'est le deuxième mandat, laissez-moi son mandat parce que je ne peux pas continuer, donc pardon ». Mais c'était pour tromper le public. Et voilà que maintenant, il cherche non pas le quatrième mandat, mais il cherche à rester au pouvoir parce qu'il veut changer la constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'était une stratégie pour amener son peuple à accepter de force le mandat qui était le troisième anticonstitutionnel et qui était contraire à l'accord d'Arusha.
Qu'est-ce que prévoit l'accord d'Arusha?
L'accord d'Arusha prévoyait qu'il n'y ait aucun président burundais qui dirige le pays au-delà de deux mandats. Et cette clause est aussi reprise par la constitution actuelle.
La campagne officielle ne s'ouvre qu'à deux semaines avant le scrutin référendaire et donc pour le moment il n'y a pas campagne.
Et qu'il y ait campagne ou pas campagne, c'est cela qui est prêché dans toutes les rencontres organisées par le parti au pouvoir, le FNDD-FDD.
Le parti au pouvoir dit entretenir actuellement une campagne d'explication du référendum.
Oui, il entretient une campagne d'explication alors que justement la période de la campagne n'est pas encore là. Et que, mais cependant, c'est cela qu'il fait aujourd'hui parce que le pouvoir a peur que le peuple burundais ne vote pas justement le non. Il sait que c'est un pouvoir pratiquement antidémocratique, c'est un pouvoir antipathique qu'il voudrait voir partir, mais conscient de ça, la solution c'est de dire, eh bien s'il vous plaît, forcez la note, cherchez à intimider pour que tout le monde puisse voter oui. Ce qui le montre aujourd'hui, au-delà, je dois vous dire, sur le terrain, aujourd'hui, vous êtes dans les travaux champêtres, vous êtes à l'école, vous êtes en voyage, vous circulez dans la rue, les policiers vous arrêtent et vérifient si vous êtes inscrit parce qu'ils craignent que les populations ne boycottent cette inscription à ce référendum.
Pensez-vous que le peuple puisse voter non?
Le peuple peut voter non, mais qui va vérifier son non ou son oui? Ce sont les policiers, ce sont les militaires, ce sont ces milices dont il a couru. Ça veut dire s'ils constatent que le non a remporté, ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est de changer les urnes et dire voilà, il faut les bourrer de oui et essayer de faire disparaître le non qui aurait été voté par la population.
L'analyse de Frédéric Bamvougi Gnumvira, président du Frodebout.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le scandale sexuel qui secoue l'ONG britannique Oxfam intéresse le continent africain. Les pays qui accueillent les bureaux de cette organisation sont en état d'alerte. Au Burkina Faso, le sujet fait débat, Issa Nippon.
Haïti, Tchad, Soudan du Sud, le monde découvre le scandale lié à Oxfam. L'onde de choc s'est propagée jusqu'au Burkina Faso où Oxfam possède une antenne pays. Les réactions indignées se succèdent.
Il y a eu un scandale. Aujourd'hui, on apprend que dans les différents pays, il y a des viols, il y a quoi. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on les sanctionne. Mais qu'est-ce que pour qu'on les sanctionne réellement? Si on les sanctionnait réellement, je pense que ça n'a pas se répéter. C'est parce que j'ai laissé aller. On s'est dit, allez, on va nous prendre. On nous ramène dans notre pays d'origine. On nous remet, on envoie d'autres personnes. Et puis en avance.
Au bureau d'Oxfam à Ouagadougou, on est encore sous le choc de ces révélations d'agressions sexuelles et autres comportements inappropriés pour le directeur d'Oxfam Burkina qui prend des dispositions pour éviter la reproduction de ce phénomène inqualifiable, juge Omer Kabouré.
Ce sont des pratiques véritablement inappropriées qui sont aux antipodes des valeurs d'Oxfam, qui sont des valeurs de dignité humaine, des valeurs de solidarité et de justice.
Pour dire par exemple qu'au niveau pays comme le Burkina, tout le personnel a l'obligation d'adhérer au code de conduite d'Oxfam prend des engagements qui sont signés. Et dans ce code, il est spécifiquement fait mention de la question des droits de la femme, notamment les harcèlements et les violences sexuelles. Il y a également un protocole de dénonciation qui est en place. Et je pense qu'avec l'ensemble de la communauté des ONG, nous pourrons travailler davantage en intelligence pour prévenir de telles pratiques et extirper de nos rangs toutes ces brebis galeuses dont des pratiques inappropriées entachent la noblesse de la mission accomplie par l'organisation.
Pour le docteur Siaka Ouattara, sociologue, il y aura forcément un avant et un après scandale Oxfam.
Forcément, il y aura une rupture de confiance entre ces différents acteurs-là. Les bénéficiaires se méfieront et ceux qui travaillaient de façon honnête et sincère verront leur image écorchée par le comportement de certains de ces humanitaires. Donc, il faut vraiment travailler à punir de façon exemplaire les coupables pour essayer de rétablir cette relation. On voit qu'ils sont menacés de coupures ou bien de diminution des aides qui sont données par les différents États. Et si ça arrive, ça veut dire que la capacité même de ces ONG-là va diminuer. La solution ici, ce n'est pas de rompre carrément, mais de sanctionner ou bien de dégager les brebis galeuses pour pouvoir maintenir l'action toujours de solidarité.
Les langues continuent de se délier avec d'autres organisations, éclaboussées elles aussi par le même phénomène d'agression et d'abus de la part d'humanitaires dans un tsunami médiatique qui n'est pas près de retomber. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Culture à présent, un film fait l'actualité en ce moment au cinéma. Il s'agit de Black Panther du réalisateur Ryan Coogler, 31 ans, dont c'est seulement le troisième long métrage. Black Panther raconte l'histoire du roi d'un pays africain technologiquement avancé. Dans son rôle, il est vêtu d'un costume de panthère et il est invincible au combat grâce à des pouvoirs mystiques. Le film, qui a coûté plus de 200 millions de dollars, fait le buzz dans le monde entier et l'une des raisons est qu'il met en valeur la culture africaine. Ce reportage de Pénélope Poulou est présenté par Jean-Roger Bion.
Nous sommes à la maison.
L'histoire se déroule à Wakanda, un petit pays imaginaire en Afrique qui cache un grand secret. Construit sur vibranium, la planque la plus puissante de la planète, Wakanda possède la technologie et le pouvoir qu'aucun autre pays n'a jamais vu.
Ce qui se passe maintenant détermine ce qui arrive au reste du monde.
Après la mort de son père dans une attaque terroriste, T'Challa, incarné par Chadwick Boseman, assume les pouvoirs de la Black Panther et devient le nouveau roi. En fait, le cinéaste Coogler a créé un super-héros africain contemporain. Écoutons ses motivations.
Qu'est-ce qui définit Panthère Noir? Vous avez ici le thème de la responsabilité politique, vous avez le costume, les griffes, vous avez la force, nous avons le fait qu'il est africain, ce qui le rend unique.
Le film pose la problématique des risques et des avantages de l'isolationnisme politique d'un pays avancé. Wakanda devrait-il partager son pouvoir et sa technologie avec le reste du monde ou cacher et protéger ses ressources aux étrangers?
C'est ma responsabilité de m'assurer que Wakanda ne tombe pas entre les mains d'une personne comme vous.
Le scénario du film, en plus du héros noir, ont captivé l'imagination du public dans le monde entier, affirme l'actrice Lupita Nyong'o. La célèbre actrice d'origine kényane joue le rôle de Nakia, une espionne au service de Wakanda et dont T'Challa est amoureux.
We have here a Marvel universe that is unapologetic.
Nous avons ici un univers qui dépeint le noir et nous voir nous-mêmes assumer un pays africain avec des rois et des reines et des guerriers, c'est tellement inspirant. Un pays aux grandes ambitions qui donne un nouveau souffle à l'esprit humain.
Dans une interview à VOA, Nate Moore, le producteur de Black Panther, et Ruth Carter, qui a conçu les costumes, ont dit que le but du film était de mettre en valeur la culture noire.
Généralement, dans le cinéma, quand on voit l'Afrique, c'est la pauvreté, le pillage des ressources. Le film met en avant un pays qui est le plus technologiquement avancé au monde.
Les vêtements colorés de Carter reflètent la tradition africaine et mettent en valeur les personnages, en particulier les femmes.
Ce sont des combattants réels, ce sont des généraux, ils ont des armes, ils doivent porter des armures. Mais ensuite, nous les avons fait d'une belle manière, les couleurs sont renforcées, l'armure ressemble à des bijoux. Les corps, d'une certaine manière, rendent hommage à leur histoire.
Selon M. Moore, le producteur du film, Rien n'a été négligé, à commencer par le casting. Chaque détail a été minutieusement pris en compte.
Nous avons fait des grands efforts et avons eu beaucoup de conseillers culturels. Et une grande partie de nos acteurs viennent d'Afrique. Même notre coach pour les langues, Beth Maguire, et tous les figurants voulaient refléter l'Afrique. Je pense que pour le public afro-américain, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce film. Et je l'espère, de l'inspiration par rapport aux origines des Afro-Américains.
Que ce soit par la force de son message sur la fierté noire ou l'émancipation de la femme, ce film ne manquera pas de marquer les esprits et devrait battre des records dans la catégorie des super-héros.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma, assisté de Cedric Franklin. Je suis Anastasie Tudiesch. Pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook aussi. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.